J'étais vraiment encouragé en constatant que vous prenez la parole de Dieu au sérieux et c'était prêt à vous laisser sonder sur des questions un peu personnelles là dans le questionnaire. Merci d'avoir joué le jeu. Je pense que c'est très bénéfique pour nous de ne pas esquiver l'application de la parole. Je vais lire le psaume 27 maintenant et ensuite prier. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est plus précieuse pour nous que l'or et plus douce à notre palais que le miel. Demandons-nous fortifier par l'Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Donne-nous de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Donne-nous d'être équipés pour les luttes de la vie chrétienne qui se présenteront à nous durant les mois à venir. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que nous te demandons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les circonstances de David dans ce psaume sont difficiles. Et il en est de même de bien des croyants du 21e siècle. Si David est poursuivi dans ce psaume, il en est de même de bien des frères et sœurs de par le monde ces dernières années, chassés de leur foyer. Pense à l'Irak ou à la Syrie. Dans le verset 10, David évoque l'abandon, le fait d'être abandonné par son père et sa mère. Les personnes musulmanes qui se convertissent au Christ aujourd'hui doivent souvent faire face à un tel rejet. Le psaume parle de faux témoins. Même en Occident, les propos de nos croyants sont régulièrement déformés. Si nous sommes chrétiens, des personnes de notre entourage, de notre famille, de notre voisinage risquent de ne pas nous apprécier, car nous refusons de suivre la société en matière de relations sexuelles en mariage, d'homosexualité, de travail au noir. Puis, il y a la lutte contre Satan qui rôde comme un lion rugissant. Nous sommes engagés dans une guerre avec le péché, nos désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Mais voici une bonne nouvelle. Nous pouvons mener le combat de la vie chrétienne avec assurance, rempli de confiance, doté d'un certain tonus. Pour cela, il suffit de saisir en quoi consistait le secret, en quelque sorte, de David dans ce psaume 27. Il se trouve dans le verset 4. Dans ce verset 4 du psaume 27, David demande une chose. C'est notre premier point de cet après-midi. L'unique désir de David. L'unique désir de David. Ce n'est pas la seule demande que David formule durant sa vie tout entière, mais il s'agit de sa priorité suprême lorsqu'il est face aux ennemis. Quelle est alors cette chose capitale? Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. On sait ce que ça donne de n'avoir qu'une chose en tête. Ça peut être l'attaquant qui vise à marquer le but. C'est quoi cette chose qu'il désire ardemment? Verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il voudrait habiter tous les jours de sa vie dans le temple. Il faudrait réfléchir à cela. Je ne suis pas sûr qu'il souhaite habiter littéralement dans le temple. Il ne provient pas de la tribu de Lévi. Il est peu probable qu'il soit en train de demander à Dieu de pouvoir changer de tribu et de pouvoir donc s'acquitter des tâches liées au tabernacle. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas encore de son vivant de temple fixe en tant que tel. Les termes « temple » et « maison » sont bien employés pour désigner le tabernacle. Et c'est cette tente mobile que David connaît. Or, David ne deviendra jamais le grand prêtre ayant accès au lieu très saint une fois par an. Et en tout cas, une fois par an n'est pas ce qu'il demande, vous avez bien remarqué dans le verset 4. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'idée de passer le reste de ses jours au sein du tabernacle en soi ne semble pas à la hauteur de la demande. Mais rappelons-nous qu'à son époque, le tabernacle, c'est là où Dieu résidait particulièrement. David peut donc employer le langage du tabernacle pour évoquer la présence de Dieu. Ailleurs, le psalmiste peut languir après les parvis de l'Éternel, il s'agit du psaume 84, peut languir après les parvis de l'Éternel, ce qui correspond à quoi? Alors, on lit la suite dans le psaume 84 et ça se traduit comme languir après le Dieu vivant, vous voyez. Pareil ici. David n'est-il pas en train de demander la proximité avec Dieu? Une proximité perpétuelle. Être constamment auprès de Dieu, connaître cette intimité avec le Dieu vivant, c'est là son unique souhait. Chercher l'intimité avec Dieu, cela se traduit comment? Vous voyez dans le verset. D'abord, contempler la beauté de l'Éternel. David voudrait contempler, méditer, comprendre, apprécier, se délecter de la beauté de Dieu. Au plan figuré, de sa magnificence, de ses attributs merveilleux. Il est question de piété, de consécration, d'adoration. Lors de l'entretien du départ, Will m'a posé des questions concernant notre marche avec Dieu. Vous voyez ce que ça donne pour David. Il voudrait se délecter de son Dieu. Très difficile d'illustrer cela, mais Pensez au jeune homme qui se délecte de la compagnie de sa fiancée. Sauf pour le fait que chez la fiancée, il y a des défauts. Chez Dieu, la beauté est toujours époustouflante. Je pense à mon épouse Myriam qui a fait l'effort lorsque nous étions en Australie il y a 18 mois à peu près pour se lever tôt, pour se rendre sur une plage magnifique en vue de contempler le lever du soleil. Sauf pour le fait qu'elle est arrivée un peu en retard. Et dans le meilleur des cas, ça ne dure pas très longtemps. Alors que chez Dieu, il est toujours présent. Puis il y a une deuxième partie dans la recherche de l'intimité avec Dieu, vous voyez verset 4 encore. Et il y a un certain flottement dans les traductions. Je suppose que pratiquement chacun d'entre nous, nous avons sous les yeux admiré son temple. Il y a des raisons d'aller dans le sens d'autres traductions et de préférer quelque chose comme m'enquérir de lui dans son temple. Guetter sa réponse dans son temple. Le verset 11 va dans ce sens, vous voyez. Éternel, enseigne-moi ta voie. David veut se soumettre à la volonté de Dieu. Il veut s'enquérir de lui dans son temple. Je pense que ça, c'est le sens qu'il faudrait privilégier là. Et donc le verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. » Voilà en quoi consiste le « secret » entre guillemets de David. Une relation intime avec Dieu. Voici le moyen par lequel il peut mener le combat avec assurance. Face aux ennemis, il est rempli de confiance quant à sa protection et à sa délivrance. Verset 5, ça continue, n'est-ce pas? « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Il me semble que David s'appuie sur des promesses qu'il a reçues. Dieu a promis d'établir sa royauté, ce qui entraîne la délivrance face aux ennemis. Il s'agit dans son cas d'une délivrance physique. David médite le caractère de celui qui lui a promis de le protéger. Il poursuit résolument cette intimité avec Dieu en contemplant sa beauté et en s'enquérant de lui. Et le bilan, c'est qu'il est doté d'un certain tonus. Et ce qui vaut pour David peut valoir pour nous également, mais sous forme transposée pour tenir compte du fait que nous ne sommes pas David. Il y a des similitudes entre ses luttes et les nôtres, entre ses circonstances et les nôtres, mais l'ancienne alliance qui régissait sa relation avec Dieu n'est pas la nouvelle alliance qui régit notre relation avec Dieu. À coup sûr, il nous faut nous approprier le verset 4 face à nos luttes. Mais si nous voulons nous l'approprier de façon juste, il faut passer par celui dont David est l'ombre, celui sur lequel David anticipe, celui qui est plus grand que David, notre deuxième titre donc cet après-midi, l'unique désir du Christ. L'unique désir du Christ. Qu'on ne s'y méprenne pas. Les souffrances de David ne correspondent qu'à une ombre des souffrances du Christ qui sont plus profondes. Est-ce que nous pouvons donc nous figurer Jésus au moment où sa mort approche, entouré d'ennemis et de personnes qui se révéleront de faux témoins, trahi par Judas, sur le point d'être renié par Pierre? Des soldats lui frapperont bientôt la tête, cracheront sur lui, se moqueront de lui. Il sera humilié, torturé. nous le figurons dans le jardin de Gethsémané. Saisis d'effroi et d'angoisse, lisons-nous. Profondément troublé par la perspective de boire la coupe de la colère de son Père. Figurons-nous Jésus en train de prononcer les paroles du psaume 27, verset 4. Dans les grandes lignes, en tout cas. Une chose, je demande à l'Éternel. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous mes jours dans la maison de l'Éternel, contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il prie afin de rester en communion continue avec son Père. Éloigne de moi cette coupe. Pensons à cette union et communion entre le Père et le Fils. L'évangile de Jean présente cela particulièrement. Le Père connaît le Fils connaît le Père aime le Fils aime le Père est dans le Fils est dans le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Le Père et le Fils sont un. Lisons maintenant le verset 9 de notre psaume. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Voici l'unique désir de Jésus, de continuer à jouir de cette relation avec son Père, cette communion, cette intimité. Voici Jésus qui brûle d'envie d'être protégé des ennemis qui l'entourent, qui savoure la délivrance, qui chérit la disposition favorable du Père à son égard. Jésus crie à présenter avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux. Une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la beauté de l'Éternel, m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus qui poursuit résolument cette intimité avec son Père, en contemplant sa beauté et en s'enquérant de lui. Et pourtant, cet unique désir qu'avait le Christ, il a dû y renoncer. C'est précisément cela dont il ne pouvait pas jouir, qu'il a choisi de laisser de côté, pour vous, pour moi. Oui, je le sais, il faut faire attention. Jésus reste le Fils bien-aimé du Père. Il n'y a pas de rupture au sein de la Trinité, mais le regard favorable du Père est retiré. Et Jésus expérimente sur la croix un sentiment effroyable de solitude, d'abandon. Il a été prêt à passer par là. Nous nous figurons donc Jésus en train de chercher la face de son Père, mais aussi chercher la volonté de son Père. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et en effet, Jésus s'est révélé prêt à supporter la croix, à boire la coupe de la colère de Dieu, à sacrifier l'intimité avec son Père. Son unique désir, c'était de rester en communion continue avec son Père, libéré des ennemis qui l'entouraient. Et il aurait pu invoquer son Père, qui aurait pu lui donner à l'instant plus de 12 légions d'anges. Mais Jésus a dû donner sa vie, a dû se priver de son désir, a dû être maudit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel tourment inimaginable. Jésus brisé par des souffrances qui sont dans une autre catégorie par rapport à celle de son ancêtre David. mais il savait que, par-delà la mort, la joie l'attendait. Il ressusciterait d'entre les morts, il monterait aux cieux, il s'assiérait à la droite de son Père dans la gloire. Et du fait de passer par la croix, un jour, ses ennemis deviendront son marchepied et son unique désir, connaître sa réalisation dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Verset 10. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Effectivement, au final, le Père l'a reçu dans la gloire. Mais la route conduisant à ce destin était celle de la souffrance, de la croix, de la malédiction. Et c'est justement parce que Jésus a été prêt à passer par la croix qu'un jour, notre unique désir se réalisera également. Notre troisième et dernier titre, l'unique désir du croyant. L'unique désir du croyant. Quel est notre unique désir? Quelle est notre aspiration la plus profonde que notre cœur régénéré engendre en nous? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas implanté en nous cette envie d'être le plus proche possible de Dieu, de celui auquel nous nous adressons ainsi par l'Esprit? Abba, Père, une chose, je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la beauté de l'Éternel, m'enquérir de lui dans son temple. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner pour nous de poursuivre cette intimité avec Dieu? Eh bien, dans la prière, nous lui demanderons et redemanderons et redemanderons cette unique chose que nous désirons suprêmement. Cela va vouloir dire les deux éléments que nous avons vus dans notre verset. Nous contemplerons Dieu et nous nous enquérons de lui. Nous chercherons la face de Dieu et nous rechercherons la volonté de Dieu. Nous nous délecterons de lui et nous nous soumettrons à lui. Et le seul moyen par lequel ça peut avoir lieu, c'est par les Écritures. Notre soumission à la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner de contempler la beauté de Dieu? Alors, nous pourrions prendre du temps, le temps nécessaire pour nous focaliser sur tel attribut de Dieu. Ça pourrait être la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Ça pourrait être fort de ce que nous avons entendu le dimanche matin lors d'une prédication, par exemple. Dimanche après-midi, nous pourrions être là en train de prendre le temps nécessaire pour méditer qui est ce grand Dieu que nous adorons. Nous entendons une prédication dimanche matin qui porte sur la grâce de Dieu et nous sommes là le dimanche après-midi en train de nous laisser bouleverser une fois de plus par la grâce de Dieu. Et nous sommes conscients de ce que c'est parfaitement et par définition immérité. Nous comprenons que dans un sens, ça n'a pas de sens. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes l'objet de cette grâce, pensant à ce que nous sommes en nous-mêmes, les ordures dans notre cœur, pensant à nos pensées les plus dégoûtantes des derniers jours, et nous nous disons, mais si jamais ces pensées-là étaient représentées visuellement pour que tout le monde les connaisse, ce serait extrêmement gênant. Mais beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave que ce que les uns et les autres pensent de nos pensées de ces derniers jours, c'est ce que Dieu pense. Ça, c'est beaucoup plus terrifiant. Et pourtant, la grâce, Dieu a choisi de pardonnera quiconque se soumet à son autorité. Et il persiste à nous pardonner malgré nos péchés récurrents. Regardons à nouveau la croix. Tout est réglé. Jésus a été prêt à boire la coupe de la colère de Dieu. Et si nous nous confions en lui, nous sommes continuellement au bénéfice de cet amour inconditionnel. Et donc, lui, nous contemplons la grâce de Dieu. Nous prenons le temps à la maison de nous arrêter sur cet attribut de Dieu. Peut-être que nous allons vouloir prendre un verset qui exprime ça particulièrement et méditer ce verset. Ça pourrait être 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et nous méditons cela. Oui, il est difficile, quelque part, de sonder la grâce de Dieu. Vous connaissez la fin de Romains 11. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et pourtant, il nous convient de mener des efforts pour sonder, pour comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Nous contemplons le caractère merveilleux du Dieu de notre salut. Ça fait partie de notre poursuite, vous voyez, de l'intimité avec notre Père. Certes, je comprends que objectivement, en Christ, nous jouissons d'une union avec notre Père qui ne peut être rompue. Mais nous continuons à exprimer notre unique désir d'être proche de lui, car nous ne sommes pas encore libres de nos ennemis. Il ne faut pas perdre de vue la seconde partie du désir, à savoir rechercher la volonté de Dieu. Chercher la face de Dieu et rechercher sa volonté vont de pair. Si, en écoutant la parole de Dieu, nous étions inculpés dans notre conscience par rapport à tel péché dans notre vie, et si nous réprimions la voix de notre conscience, si nous ne tenions pas compte de ce que nous avons vu dans le psaume 32, alors nous ne serions plus en train de rechercher la volonté de Dieu. Et nous cesserions aussi de chercher la face de Dieu. C'est ainsi que ça fonctionne. Nous chérissons la relation intime avec Dieu et cela se traduit par lutter contre ce qui déplaît à Dieu. Dans le contexte, le verset 4 nous fournit les armes dont nous avons besoin face aux ennemis, y compris l'ennemi qu'est le péché qui subsiste en nous. Et la lutte continue, jour après jour. Mais un jour, nous verrons la face de notre Sauveur. Un jour, le diable et la mort auront été jetés dans les temps de feu et de soufre. Un jour, nous serons entièrement glorifié, portant l'image de notre frère aîné, le Seigneur Jésus. Ou selon le propos du verset 13 de notre psaume, un jour, nous verrons la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Entre-temps, nous continuons à viser cette intimité avec Dieu, à rechercher sa volonté, chercher sa face, à nous délecter de lui, à nous soumettre à lui. Nous contemplons sa beauté et nous enquérons de lui. Et puis, nous sommes équipés pour faire face à nos ennemis avec assurance, remplis de confiance, dotés d'un certain tonus. Mais veillons à nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. Il ne nous a pas promis la protection physique dès cette vie, il a bien promis de nous protéger spirituellement, de ne pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il a promis qu'il donnera le moyen de supporter la tentation. Il a promis de nous garder dans la foi jusqu'au bout. Les épreuves peuvent être rudes, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres en haut, ni les êtres en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Un missionnaire en Afrique de l'Est au 19e siècle était en captivité sous tente dans des conditions épouvantables. Figurons-nous la scène. Une nuit, il est nettement privé de sommeil. Il ne dort qu'une heure. C'est à cause du bruit des gardes ivres et de la vermine dans sa tente. Il note à ce moment-là dans son agenda, effondré et abattu, réconforté par la lecture du psaume 27. Peu après, il est mis à mort. Mais cela ne veut pas dire que le fait d'être réconforté par le psaume était mal placé. Ce qui nous est promis dans la Nouvelle Alliance, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et comme notre Seigneur, nous passons par la souffrance en route pour la gloire. Et nous sommes fortifiés sur cette route en exprimant résolument notre unique désir, connaître cette intimité en cherchant la face de Dieu et en recherchant la volonté de Dieu. Nous pouvons être ainsi assurés que Dieu nous conduira à bon port. Je conclus par une illustration contemporaine de la mise en pratique de ce verset et deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église. Pour les trois illustrations, je vais me cantonner à l'un des ennemis seulement qui va nous concerner chacun d'entre nous dans cette salle, tous les jours, l'ennemi qu'est le péché. Considérons d'abord la lutte contre les pensées de luxure. Comme l'affirme le grand prédicateur contemporain John Piper, il ne suffit pas de dire non à de telles pensées. Il faut passer à l'attaque. Donc voici. Selon le Nouveau Testament, les pensées de luxure sont trompeuses et relèvent des désirs que nous avions lorsque nous vivions dans l'ignorance. Comment passer à l'attaque? Oui, bien sûr, on rejette la tromperie, on rejette l'ignorance. Mais comment passer à l'attaque? Eh bien, nous remplaçons la tromperie par la vérité glorieuse. Et nous remplaçons l'ignorance par la connaissance de ce qui est beau, par les promesses fiables de Dieu, par ce qui satisfait notre âme. Autrement dit, nous mettons en pratique le verset 4 de notre psaume. Et justement, je connais quelqu'un qui lutte avec la pornographie depuis des années. Mais il a fait d'énormes progrès dans cette lutte. Pourquoi? Parce que c'est un modèle en matière de mise en pratique de ce verset. Et il m'a donné la permission de le citer. Voici. Le changement clé pour moi, dit-il, ces jours-ci, c'est que mon désir de pécher a diminué et mon désir d'être proche de Jésus a augmenté. Par ailleurs, je m'approprie mieux la grâce de l'Évangile et la joie dans l'Évangile lorsque je tombe. Ce n'est pas que je néglige d'être brisé par le péché, mais que j'ai plus tendance à courir vers notre Père au nom de Jésus pour confesser le péché et pour croire véritablement la bonne nouvelle de l'Évangile et le verdict de Dieu en Christ à mon égard. En fait, je mène le combat simultanément sur plusieurs fronts, non seulement contre les désirs sexuels, mais encore contre l'orgueil, l'amertume, la jalousie, des accès de colère. J'ai dû appliquer à tout cela la contrition, la confession et l'appropriation de la grâce, le remède de la joie en Jésus grâce à l'Évangile. Et puis les deux illustrations tirées de l'histoire de l'Église, je les trouve très motivantes. Le grand théologien américain Jonathan Edwards a été grandement utilisé par Dieu lors d'un réveil il y a près de 3 siècles. Et durant ce réveil, son épouse Sarah est passée par une expérience particulièrement marquante qui a duré 2 semaines. À cette époque, elle était trop portée vers ce que les uns et les autres pensaient d'elle. Elle recherchait l'approbation de son mari en particulier. Mais durant ces 2 semaines, elle a été transformée à cet égard. À force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, exactement comme dans notre verset, à force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, elle s'est affranchie progressivement de ses préoccupations quant à comment elle était perçue par les autres. Et elle a connu de plus en plus de joie dans le fait d'être acceptée par Dieu. Et puis, ce n'est pas un secret que l'Évangile progresse très nettement en Chine ces dernières décennies. Par la providence de Dieu, l'une des chevilles ouvrières de ces progrès de l'Évangile, c'est un missionnaire du 19e siècle, James Hudson Taylor. Et un auteur, Tim Keller, nous fait part de ce qui peut être considéré le secret de Hudson Taylor. Taylor veillait à ce qu'il se voit constamment rappeler une prière qui provient d'un cantique. On suppose qu'il prononçait régulièrement cette prière également. Cette prière consiste à demander que Jésus soit plus présent pour lui et plus précieux pour lui. Plus présent pour lui et plus précieux pour lui que tout ce qui se trouve sur terre. La vie chrétienne peut être intimidante. Nous sommes engagés dans un combat contre le monde, contre la chair, contre le diable. Mais nous demandons à l'Éternel une chose que nous désirons ardemment. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Contempler la beauté de l'Éternel, nous enquérir de lui dans son temple, et cela nous donne l'assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Même cas de figure, donc il y a des questions et donc on discute ensemble autour des tables.
Et juste pour dire aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aurons quelques minutes pour poser des questions à James à la fin. Si vous n'avez pas de questions, pourquoi ne pas trouver une question entre vous et la noter pour dire à James. Bref, ça vient de partager. Ensemble à la fin. Merci James. Je n'ai pas.
C'est une question pour le contenu d'aujourd'hui.
Oui. Merci Atala. Juste donc des questions sur le contenu d'aujourd'hui et les 2 psaumes. Si vous avez des questions sur l'application de ces psaumes ou des questions sur un aspect du langage, etc., vous serez bien. Ce genre de questions.